Les oiseaux ont une forme d'intelligence, reste à définir quelle est cette forme.
Donc on doit poser des questions de dauphins à des dauphins, des questions de blattes à des blattes, des questions de chats à des chats.
Mademoiselle Desbiers va, avec une lame de rasoir, couper la tête, si l'on peut dire, de la plante.
Oui, les plantes sont intelligentes. Elles sont fixées, donc elles doivent absolument percevoir tout ce qui se passe dans l'environnement pour réagir très rapidement, finalement.
J'ai peur !
Pour Jacques Tassin, chercheur écologue au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement à Montpellier, la vision que l'on a de la nature est vieillotte et ringarde. Jacques Tassin s'intéresse à la nature profonde du végétal et aux liens qui nous unissent aux plantes. En fait, il s'intéresse à la vie dans son ensemble. Ce naturaliste l'avoue lui-même, il n'est pas dans le fil orthodoxe du chercheur habituel. Il considère que nous avons trop perdu le contact avec la nature. Jacques Tassin signe un livre qui est sorti il y a quelques semaines chez Odile Jacob pour une écologie du sensible. Il porte sur le monde végétal un regard à la fois poétique et scientifique. L'homme est-il si différent des plantes? Il faut être écologue naturaliste pour se poser la question. Il faut être Jacques Tassin pour oser.
Les aventuriers sur France Inter.
Il faut se garder de tout anthropomorphisme et vouloir à tout prix que les plantes nous ressemblent. Et lorsqu'on parle de communication, on doit d'abord parler de communication physique, physiologique, qui est inévitable parce que les plantes ont ceci qu'elles ne sont pas arrêtées. Donc elles se prolongent toujours dans le reste du vivant et notamment dans le reste du végétal. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut entendre le terme de communication.
Elles communiquent avec des signaux chimiques, avec des signaux électriques, avec des signaux même hydriques. Qu'est-ce qu'on peut dire de la communication des plantes ?
Elles réagissent à des changements de l'environnement en s'auto-informant, en s'informant dans l'ensemble de cette fédération de bourgeons qu'est une plante. Et pour s'auto-informer, il y a effectivement plusieurs moyens. Il y a des moyens électriques qui sont très efficaces, qui sont rapides. Il y a des moyens chimiques qui, s'ils suivent le sens de la ramification, prennent plus de temps, mais qui, s'ils court-circuitent cette ramification, vont très vite. Et les plantes ont cette capacité à produire des messages odorants qui vont intéresser l'ensemble des feuilles qui constituent cette plante. Des messages qui peuvent aller au-delà de cette plante et être interprétés de la même manière par des plantes voisines. C'est dans ce sens-là où parfois on est tenté de parler de communication, mais ce n'est pas de la communication intentionnelle. S'il y a une intention, elle serait dirigée vers la plante qu'il aimait, pas vers la plante voisine.
Ça se passe où? Ça se passe comment? C'est à travers la sève que cette information circule?
Alors, lorsqu'il s'agit d'un signal chimique, c'est via les circuits par lesquels transite la sève élaborée que ces signaux cheminent. Lorsqu'il s'agit d'un signal électrique, c'est de cellule à cellule.
Jacques Tassin, quand vous parlez des plantes, vous parlez des plantes, des fleurs, mais est-ce que vous y mettez aussi les arbres?
Ah ben, les arbres sont des plantes. Les plantes sont des végétaux et les arbres sont des végétaux.
Et donc les arbres peuvent communiquer, on le sait, par l'air, mais aussi par voie souterraine.
Oui, parce que par voie souterraine, alors ce qu'on oublie souvent, c'est que dans le sol, il y a de l'air. Donc là, en réalité, la principale voie de communication chez les plantes, elle se fait par voie aérienne, soit au-dessus du sol, soit au-dessous du sol. Ce qui n'empêche pas qu'en complément, il y a une deuxième voie, évidemment, qui s'impose, qui est celle des racines, par lesquelles des substances chimiques qui véhiculent une information peuvent être transmises d'une plante à une plante voisine.
Alors vous êtes... Vous adorez les plantes, vous aimez les auteurs qui écrivent sur les plantes et vous êtes venu avec un texte de Jean-Henri Fabre, le naturaliste Jean-Henri Fabre, qui a écrit « Leçon à mon fils sur la botanique » en 1876.
Bien des faits qui seraient inexplicables avec l'organisation d'un être réellement simple deviennent d'une parfaite clarté si l'on considère l'arbre comme un être collectif, dont les divers individus, les bourgeons, vivent en commun, tout en conservant une certaine indépendance. Lorsqu'on taille un arbre fruitier, en supprimant une partie de son branchage, cette large mutilation, comme n'en pourrait supporter sans périr aucun être simple, loin d'être mortel à l'arbre, lui est au contraire favorable. Parce que les bourgeons qu'on laisse profitent de la nourriture destinée aux bourgeons enlevés.
Qu'est-ce que vous aimez dans ce texte? C'est le texte lui-même ou c'est parce que c'est écrit par Jean-Henri Fabre?
C'est les deux. Moi, j'aime beaucoup le talent d'écrivain de Fabre, mais j'aime beaucoup aussi ce qui était quand même à l'époque une intuition, même si c'était d'abord des grands philosophes comme Goethe, comme Kant, qui avaient eu cette préscience de cette dimension composite de l'arbre et puis de la plante en général, donc qui est encore une fois une communauté d'individus. Mais donc Fabre le dit merveilleusement bien.
Dans un de vos livres, vous racontez que la surface aérienne d'un arbre de 40 mètres de haut est énorme.
Oui, c'est effectivement ça qui me fascine. C'est disons que ça c'est un indicateur. Hein. Alors je ne sais plus exactement, un arbre de 40 mètres de haut, ça va être l'équivalent de plusieurs stades de football. Mais moi ce qui me fascine, c'est cette manière d'être ouvert. Parce que de la feuille, c'est de la surface, donc c'est de l'interface, c'est de la capacité d'échange, c'est une manière d'aller chercher le monde. Et l'arbre, alors c'était Théophraste qui disait ça, un contemporain botaniste d'Aristote, qui disait... Les arbres n'ont pas d'idées arrêtées. Alors, il prenait le terme d'idée au sens de Platon, au sens d'organisation du monde. Et effectivement, autant les animaux sont prédéfinis, ils sont prédéfinis aussi par la mort et par la forme. Les arbres ne sont pas prédéfinis ni par la forme, ni par la mort. Ils sont en perpétuelle ouverture. En réalité, ces grands arbres de 40 mètres de haut ou autres, ils sont presque éternels. C'est-à-dire que ce qui les met à terre, le plus souvent, c'est un cyclone, c'est un incendie, voire une intrusion humaine, qui tôt ou tard finit par se manifester. Ce qui fait que des arbres éternels, il n'y en a pas, mais des arbres, des séquoias de plus de 3000 ans, des arbres qui, dans le nord de la Californie, ont plus de 5000 ans, ça existe.
Donc c'est ce que vous racontez. Vous racontez qu'un arbre ne meurt jamais de par lui-même, que c'est toujours une circonstance extérieure, et que l'arbre continue à grandir et à vivre perpétuellement.
Oui, ils ont cette air d'insolente jeunesse que Ronsard lui-même avait vu, parce que un arbre est toujours jeune, finalement. Il peut avoir une silhouette un peu vieillie, où on sent le poids de l'âge, avec des branches qui se courbent, peut-être, mais le feuillage qui réapparaît au cours des années est toujours un feuillage jeune, un feuillage de quelques mois. Et ça, c'est lié à des cellules à caractère embryonnaire qui sont dans la pointe des bourgeons, qu'on nomme des méristèmes, qui sont de véritables source de jouvence que nous n'avons pas en nous, mais que les arbres gardent. Il y a toujours cet éternel recommencement, ce jamais fini chez les arbres, que ce soit une finitude dans l'espace ou une finitude dans le temps.
Alors, sans faire d'anthropomorphisme, on va écouter une interview de Jean-Marie Pelt, le grand botaniste écrivain qui parlait des fleurs amoureuses en 1980.
Elles sont amoureuses de deux manières. Elles sont d'abord amoureuses comme nous, comme tous les êtres vivants, par les cellules mâles et femelles qu'elles échangent pour faire des œufs. Alors ça, tout le monde le fait, j'allais dire la plante la plus primitive dans l'océan jusqu'à nous, n'est-ce pas? Il y a un spermatozoïde qui rencontre un jour un ovule. Alors ça, c'est ce que j'appelle l'amour cellulaire. C'est pas très intéressant. Et puis ensuite, il y a l'amour tout court avec quelqu'un d'autre. Alors pour nous, le quelqu'un d'autre, évidemment, c'est celui dont on est amoureux. Par contre, le quelqu'un d'autre pour une fleur, c'est un insecte, c'est pas une autre fleur. Les fleurs ne s'aiment pas entre elles. Elles aiment l'insecte ou l'oiseau, à la limite aussi l'escargot, parfois l'écureuil, qui va leur porter le pollen. Et qui va par conséquent les féconder.
Mais les fleurs ont été inventées pour les insectes?
Et les insectes ont été inventés pour les fleurs. Ils se sont inventés l'un par l'autre et l'un avec l'autre. C'est ce qu'on appelle une coévolution, ils ont évolué ensemble.
Jacques Tassin, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est à la fois joli et vrai. C'est ça qui est intéressant. Là, on n'est pas vraiment dans l'anthropomorphisme. On est dans un mélange de science et de poésie pour aider à diffuser la connaissance. Alors avant lui, il y avait Maeterlinck, hein, qui évoquait cette manière dont les fleurs convoquent des ailes pour être fécondés. Donc on est sur une tradition assez lointaine hein, de parler des plantes en mobilisant également de la poésie pour être au plus près, en inhérence avec ce monde étranger qu'est le végétal.
Une question encore autour de la communication. J'ai lu que certaines peuvent émettre des sons et qu'elles perçoivent des infrasons, voire des ultrasons.
Alors les plantes perçoivent très bien les vibrations, ça leur est vital, puisque ça leur permet, lorsque un insecte se pose sur une de leurs feuilles, de réagir. Par exemple, en produisant des substances toxiques, désagréables pour ces insectes qui voudraient s'en repaître. Mais ça permet également, et ça on le sait depuis un an ou deux, de reconnaître des insectes pollinisateurs, c'est-à-dire qui vont s'intéresser à la fleur et transmettre le pollen d'une fleur à une autre. Ces insectes sont reconnus par leurs vibrations. Donc, possibilité de reconnaître les vibrations directes, c'est-à-dire en contact, mais aussi possibilité de percevoir, je dirais, des vibrations à distance. Et quand les insectes pollinisateurs sont proches, la fleur est capable de sécréter un surcroît de nectar qui va attirer l'insecte, qui va polliniser la fleur.
Jacques Tassin, dans un instant, vous nous direz si les plantes ont de la mémoire. Vous êtes d'accord ?
Allons-y.
C'était si belle.
Les Saventuriers sur France Inter.
Jacques Tassin sait comment les arbres bougent, pourquoi ils se tiennent droit, quelles sont les stratégies de certaines plantes pour échapper à leurs prédateurs. Mais il est plus difficile de parler de communication ou de mémoire dans le monde végétal.
Alors quand on parle de mémoire, on se retrouve dans la même situation que lorsqu'on parle de communication ou d'intelligence ou plein d'autres choses encore qui sont des termes très ambivalents. Si l'on se situe sur le terme, sur le sens de la mémoire, c'est une capacité à aller remonter dans le temps et aller chercher un événement qui n'existe plus, pour lequel il y a une réponse.
Et donc ça, elles en sont incapables ?
Eh bien ça non, voilà. Donc c'est quand même une différence majeure. Alors après, si l'on dit que la mémoire, mais là on commence à tordre un peu le terme de mémoire, si on commence à dire que c'est finalement un enregistrement de ce qui s'est passé dans un temps lointain, une trace, bon, certes, ça fait partie du sens, de l'un des sens usuels de la mémoire, mais pas dans le sens où on voudrait le dire.
Mais quand une plante a été stressée, quand une plante, par exemple, a manqué d'eau, quand une plante a souffert, quand une plante a été blessée, est-ce qu'elle peut
réagir quand elle est face à nouveau à un stress?
Je dirais pas que le stress préliminaire lui a appris quelque chose. J'oserais pas utiliser ce terme. Mais en tout cas, il y a une expérience. La plante a éprouvé un premier stress, un premier danger, elle y a répondu. Donc évidemment, ses capacités de réponse sont encore là. C'est dans ce sens-là où on peut à nouveau parler de mémoire, mais c'est une mémoire un petit peu différente de celle qu'on évoque habituellement lorsqu'on utilise ce terme.
Alors une plante, c'est pas un individu qui vit seul. Les plantes s'entraident, les plantes ont besoin des bactéries, les plantes ont besoin des animaux pour vivre.
C'est vraiment ça qui m'éblouit, je dirais, chez les plantes, c'est cette capacité à s'orienter sur l'autre, à s'extérioriser. Il y en a qui disent même qu'une plante n'est pas auto-centrée, mais cosmo-centrée. Elle a cette capacité à... Allez, utilisons un terme un peu fou, mais à dialoguer avec l'atmosphère qu'elle façonne, avec les roches dont elle tire des sols, avec le reste du vivant. Vous parlez des bactéries, on peut parler des champignons, des abeilles, des oiseaux qui vont disperser leurs graines. Les plantes ont cette capacité à collaborer avec l'ensemble du monde.
Voilà pourquoi vous êtes venu avec ce texte de Maurice Maeterlinck, qui était un écrivain belge. L'intelligence des fleurs a été écrit en 1907.
Je n'ai pas, cela va sans dire, l'intention de passer en revue toutes les preuves d'intelligence que nous donnent les plantes. Ces preuves sont innombrables, continuelles, surtout parmi les fleurs où se concentre l'effort de la vie végétale vers la lumière et vers l'esprit. Toutes ont la magnifique ambition d'envahir et de conquérir la surface du globe en y multipliant à l'infini la forme d'existence qu'elles représentent. Pour atteindre ce but, elles ont, à raison de la loi qui les enchaîne au sol, à vaincre des difficultés bien plus grandes que celles qui s'opposent à la multiplication des animaux. Aussi, la plupart ont-elles recours à des ruses, à des combinaisons, à une machinerie, à des pièges, qui sous le rapport de la mécanique, de la balistique, de l'aviation, de l'observation des insectes, par exemple, précèdent souvent les inventions et les connaissances des hommes.
Alors dans ce texte, Maeterlinck dit qu'elles sont rusées, qu'elles utilisent des subterfuges. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple?
Alors là, il pense manifestement aux orchidées auxquelles il s'est intéressé. Où dans le monde des orchidées, on a à peu près 30% d'espèces qui utilisent ce type de subterfuge pour attirer des insectes qui vont concourir à la pollinisation et donc à la fécondation de ces fleurs.
Alors comment elles font les orchidées ?
Alors d'abord, il ne s'agit pas d'intelligence. Là, Maeterlinck joue un peu une nouvelle fois avec les termes. C'est l'évolution qui a façonné ça à la faveur du temps. Elles miment l'apparence d'un insecte, femelle parfois. Elles ont une symétrie bilatérale, c'est-à-dire que la partie droite et la partie gauche se ressemblent, comme on voit cela chez des animaux, mais très rarement chez les plantes, sauf chez les orchidées. Les insectes mâles se font abuser, si je peux dire, par les plantes, ou les abusent, je ne sais pas quel est le terme le plus... Les abusent en retour, puisqu'ils vont tenter de féconder les fleurs qui parfois émettent même des substances qui miment des phéromones, c'est-à-dire des substances odorantes, volatiles, produites par les femelles qui indiquent leur présence. Et donc ces insectes mâles se font manipuler plusieurs fois, en quelque sorte. Alors il y a même aussi des
mais pour quel intérêt ?
Ah bien, pour la fécondation. Encore une fois, parce que la plante étant immobile a besoin d'assistance, a besoin de collaboration et est allée chercher chez l'autre ce qu'elle n'avait pas en elle-même. Donc elle est allée invoquer des ailes, comme le disait Maeterlinck, donc pour pouvoir être fécondée, ce qui est vital pour tout être vivant.
Donc si je comprends bien, elle émet des phéromones, elle joue à l'insecte femelle, l'insecte mâle vient et en fait vient féconder l'orchidée, c'est ça?
C'est cela, voilà.
Alors toujours à propos des plantes qui savent s'aider et se faire aider, je vous propose d'écouter Philippe Bonduel en 1979. Philippe Bonduel est un journaliste passionné par le jardin, un grand connaisseur des plantes, et là il parle des oiseaux.
Beaucoup d'arbres ou de plantes font des baies qui sont très dures en général, et dont la graine est très dure, les oiseaux mangent la pulpe, enfin, avalent l'ensemble, bien entendu, ils mangent la pulpe et ils rejettent quelques kilomètres plus loin, dans un fumier approprié en plus, une graine qui germera loin de sa plante mère, mais dans une terre neuve. Donc ce qui permet la propagation de l'espèce. Il y a de quoi quand même s'émerveiller devant ce mécanisme qui, je le rappelle, est complètement inconscient. Les plantes n'ont aucune conscience, quoi qu'on prétende à ce niveau-là.
Vous êtes d'accord, Jacques Tassin ?
Absolument. Et c'est vrai que dans les forêts tropicales, à peu près 90% des espèces d'arbres ont leurs graines dispersées dans l'espace, disséminées, transportées, parfois à des kilomètres de distance, par les oiseaux, par les singes ou par d'autres mammifères. C'est extraordinaire, cette manière dont l'arbre a pu se saisir de l'ensemble du vivant.
C'est une façon de voyager, en quelque sorte.
Ah ben, l'arbre voyage, pas dans la même temporalité que la nôtre. La croissance est déjà une gestuelle et un certain voyage dans l'espace. C'est très lent. Voilà, ce n'est pas de notre domaine, mais c'est une forme de voyage. Même si l'arbre est ancré, la ramification se déploie. Et évidemment, via les graines, il y a des voyages qui peuvent s'établir sur plusieurs milliers de kilomètres de distance. On connaît des graines qui ont été propagées, par exemple, de l'Australie à l'île de la Réunion. Ce n'est pas rien comme voyage.
Jacques Tassin, vous êtes chercheur au CIRAD, chercheur en écologie. Qu'est-ce que vous menez comme travaux exactement ?
Alors justement, moi j'ai beaucoup travaillé sur, peut-être un peu relevant du jargon, c'est l'ornithocorie, c'est-à-dire la manière dont les plantes ont su tirer parti des oiseaux au service de la dispersion de leurs semences. Et je me suis beaucoup intéressé à cela, puisque les oiseaux souvent mettent une vingtaine de minutes à rejeter ces graines, mais pendant ce temps-là, ils ont fait du trajet. Et pour peu qu'ils aient un problème de transit intestinal, ça je l'ai vu, et ben ils voyagent encore plus loin. Donc ça c'est intéressant, parce que ce sont les singularités qui poussent le vivant en dehors de ses espaces habituels.
Et voilà comment un arbre peut voyager très loin. Vous êtes un spécialiste de la sensibilité des plantes et vous allez nous dire ce qu'est la sensibilité des plantes dans un instant, si vous voulez bien.
Women in the churches wear powder and paint, where the Jews and the Catholics and the Muslims all pray. I can tell them prodding from a mile away. Goodbye, Jimmy Reed. Jimmy Reed indeed. Give me that old time religion, it's just what I need. Is the kingdom, the power and the glory. Go tell it on the mountain, go tell the real story. Tell it in that straightforward puritanical tone, in the mystic hours where the person's alone. Goodbye, Jimmy Reed, Godspeed. Thump on the Bible, I proclaim a creed. Jimmy Reed, goodbye and good night. Put a jewel in your crown and I'll put out the lights. They threw everything at me, everything in the book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck.
transparent dress suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a noose. Goodbye, Jimmy Reed. Goodbye, and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong.
Goodbye Jimmy Reed, c'était Bob Dylan.
Les Saventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter.
La plante est donc unique et multiple à la fois, vous l'avez compris. Jacques Tassin, chercheur au CIRAD, aimerait que l'on considère l'écologie sous un angle différent. Pour lui, l'écologie du sensible est peut-être la clé de notre survie alors que la biodiversité est menacée par le réchauffement climatique.
Alors, il me semble que le terme de sensibilité est beaucoup plus adapté à la plante que celui de l'intelligence. La plante a une capacité de s'ajuster au monde, bien mieux que ne le font les animaux, qui ont plutôt tendance à virtualiser ou à se déplacer. La plante, elle fait face. Et elle fait face par toute sa sensibilité. Alors, il faut faire très attention à ce terme. Quand je parle de sensibilité, je ne parle pas d'émotion. Mais je parle de capacité à déployer du sensible. Le sensible, c'est un terme qui dérive de l'indo-européen sent, S-E-N-T, qui veut dire aller de l'avant, c'est-à-dire suivre un sens, justement. Là, on retrouve l'idée selon laquelle les sens font sens et permettent à la plante de se déployer. Parce que dans la plante, c'est toujours un déploiement. Chez l'animal, et donc en particulier chez nous, êtres humains, ce déploiement s'arrête une fois que notre croissance est terminée. Chez la plante, elle ne cesse jamais. Et encore une fois, la plante non seulement poursuit sa croissance, mais elle va aller chercher l'autre, elle va se prolonger dans l'autre. Ça, c'est de la sensibilité, c'est de la capacité d'ouverture sur le monde. C'est pas de la virtualisation comme le représenterait l'intelligence.
Et on rappelle que le végétal n'a pas de cerveau.
Alors non, le végétal n'a pas de cerveau. Alors ça remonte au XVIe siècle, alors même à Aristote d'ailleurs. Pour lui, la plante enfouissait sa tête dans le sol. Et elle se nourrissait à même le sol via ses racines. Donc, partant de cette approche, c'était facile d'envisager que la tête étant dans le sol, il y avait un cerveau. Le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, considérait aussi qu'il devait bien y avoir un cerveau quelque part. Alors après, quand on fait une analogie entre les figures de nos neurones cérébraux et puis la conformation d'un système racinaire, de l'ensemble des racines d'une plante, on se dit, tiens, c'est vrai, il y a une belle analogie, est-ce que
ça
ce serait
ressembler.
Pas un cerveau? Mais ça suffit pas. L'analogie n'est pas une démonstration. Alors, il faut pas tomber dans cette tentation qui consisterait à croire que les plantes ont un cerveau. Elles n'en ont pas, mais elles n'ont pas besoin d'un cerveau pour être merveilleusement au monde comme elles le sont.
Quelle est la différence entre l'animal et le végétal? Écoutez le naturaliste Jacques Brosse, c'était en 1951.
Il serait extrêmement important de savoir quels sont les caractères qui, véritablement, pour la science moderne, définissent l'animal et le végétal.
Ce sont tout d'abord des caractères physiologiques. L'animal ne peut pas par lui-même effectuer sa propre synthèse. Il est obligé d'emprunter à d'autres, à des végétaux, les principaux éléments et aliments qui lui permettront d'édifier sa substance, son cytoplasme et son noyau.
Et de la renouveler.
Et la renouveler, bien entendu. Tandis que le végétal peut se contenter d'aliments minéraux, et de gaz carbonique grâce au pigment assimilateur dont il est pourvu. Ce pigment assimilateur étant la chlorophylle.
Ça, c'était en 1951. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on peut dire la même chose ?
Ah bah tout à fait, ce sont les plantes qui mènent la danse. Francis Ponge disait, les animaux se sont surajoutés au monde. Ce sont des profiteurs, si je peux dire. Celles qui ont fait le travail, ce sont les plantes qui, effectivement, à la faveur de la photosynthèse, ont préparé le terrain, ont constitué la matière vivante. Mais l'animal vient derrière tout cela, en aval.
Alors vous dites, les plantes sont sensibles. Quand on dit les plantes, ce sont les petites fleurs du jardin jusqu'aux arbres de 40 ou 50 mètres de haut. Elles sont sensibles à quoi? Elles sont sensibles à la lumière, elles sont sensibles au toucher, elles sont sensibles aux vibrations, vous l'avez dit tout à l'heure.
À tout cela à la fois et même à d'autres choses encore, à des présences d'éléments chimiques qu'elles perçoivent à distance. La présence d'eau, on sait aujourd'hui qu'elles sont capable de le percevoir également à distance. Alors, pas à des distances considérables, évidemment. Avec une subtilité qui est incommensurable avec la nôtre. Alors, pour donner un indicateur, nous, dans notre rétine, nous avons quatre types de photorécepteurs qui permettent de percevoir la subtilité de la lumière. Chez les plantes, il y en a 11. Et c'est pas seulement à peu près trois fois plus, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est tout un ensemble de combinaisons. Donc les plantes ne voient pas, elles n'ont pas d'écran intérieur qui leur permettent d'avoir des images, mais elles ont une appréhension de la lumière qui est extraordinairement plus fine que la nôtre. Et ça vaut aussi pour... C'est difficile de parler de toucher, parce que quand on parle de toucher, ça voudra dire qu'il y a un organe d'essence, alors qu'il n'y a pas d'organe d'essence chez les végétaux. Mais en tout cas, cette capacité d'appréhender des contacts avec des organismes autres et étrangers, qui sont extraordinairement subtils, puisqu'elles sont capables de détecter des masses quasiment infimes, de l'ordre de quelques microgrammes.
Et cette sensibilité, elle se fait via les feuilles ou via les fleurs ?
Alors, les fleurs, ce sont des feuilles modifiées. Dans l'absolu, ce sont des feuilles. Donc c'est un petit peu
c'est la même chose.
C'est un petit peu la même chose, quoi. Ce sont des feuilles modifiées, donc qui ont effectivement des points de sensibilité qui sont pour certains domaines accrus. C'est le cas lorsque des pétales sont capables de percevoir à distance les vibrations qu'émettent des insectes pollinisateurs, par exemple.
Et voilà pourquoi on dit que les plantes peuvent percevoir la musique.
Alors voilà, là on va à nouveau un peu vite en besogne. Elles sont capables de percevoir des vibrations, donc elles réagissent à la musique. Mais c'est tellement complexe qu'il y a des expérimentations qui ont été mises en place, évidemment, pour essayer de trouver des relations, voir si la croissance est plutôt activée ou plutôt freinée, voir la reproduction des plantes. Et on voit tout et son contraire, parce qu'évidemment, la musique est tellement multiforme, et puis selon le niveau du volume sonore, on a des vibrations plus ou moins fortes, et évidemment, la plante réagit à cela. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'elles sont sensibles à la musique, mais c'est un mensonge aussi, en quelque sorte. Elles sont sensibles aux vibrations que représente la musique.
Donc, on ne sait pas s'il faut leur faire écouter du Mozart ou les Beatles. Vous êtes venu avec un troisième texte, Jacques Tassin, un texte signé Raoul Fancé, qui était un botaniste austro-hongrois et qui a écrit en 1937 Le sens de la plante.
Il y a certainement dans le végétal autre chose que la simple faculté à répondre à de l'excitation. Nous ne pouvons plus nous contenter de cette idée qu'il n'est qu'un automate savamment construit, dans lequel un certain nombre de forces sont retenues par des mécanismes variés, jusqu'au moment où, pressant sur un bouton, l'automate s'agite et bat, jusqu'à ce que sa forme emmagasinée soit épuisée et le mouvement d'horloge arrêté.
La plante n'a pas de cerveau, mais la plante n'est pas un automate.
Non, alors jusque dans les années 70, on avait du mal à parler de sensibilité. Je dirais, ça débordait même le simple domaine de la botanique. Mais dans le domaine de la botanique, on parlait plutôt d'irritabilité. Et là, on est effectivement on reste quand même sur le modèle de l'automate. C'est-à-dire qu'on commence à caresser le sens de la sensibilité, mais d'un seul côté, c'est-à-dire cette faculté de la plante à réagir à un stimulus externe. Mais la sensibilité, c'est pas que ça, c'est aussi et surtout aller chercher, se déployer, aller tendre et aller à la quête de messages et de signaux qui viennent du monde extérieur. Et c'est ça ce que fait la plante en permanence. Les plantes, ce sont des antennes.
Encore un son, Jacques Tassin. Il date de 1975 et c'est Jean Cayrol, qui était un essayiste et un romancier, qui nous parle de l'âme des arbres. Je pense que ça va vous plaire.
Vous présentez les arbres comme des personnages. Est-ce qu'ils ont une âme, les arbres ?
Les arbres n'ont pas d'âme, si on peut dire, mais ils ont un peu de cœur. Il y a une espèce de sensibilité de l'arbre. Ils donnent bien des baies et des fruits. Je crois que dans la forêt, il y a le respect de la vie totale, dans les forêts anciennes notamment.
Ça vous plaît ?
Alors j'aurais du mal à considérer que les arbres ont ni une âme, ni un cœur. Que l'on soit attiré, touché par les arbres, que l'on ressente une présence, parce qu'effectivement, il y a une faculté de présence dans l'arbre, tout à fait. Et ce que l'on ressent aussi, je pense, intuitivement, ou peut-être notre corps le ressent, c'est que les arbres sont des facilitateurs de vie. C'est dans les forêts qu'on trouve le plus de diversité du vivant. C'est là où il y a le plus de foisonnement, d'interaction. Ils abritent le vivant, les arbres, et c'est là où le vivant a le plus évolué. Donc c'est ça, je pense, qu'on reçoit. Alors si c'est cela qu'on entend par âme des arbres, là je suis d'accord.
Quand vous regardez un arbre, qu'est-ce que ça vous fait ?
Sincèrement, ça me dilate. C'est-à-dire que j'essaie de, pas forcément de mettre un nom, d'ailleurs, bon, je connais un peu les arbres quand même, donc je suis capable de mettre un nom, mais j'essaie d'aller au-delà et d'être en perception, d'abandonner ce qui occupe mon cerveau pour être vraiment en présence de cet organisme qui lui-même est en présence. Et voilà, et je me laisse aller, et je sens à ce moment-là que j'appartiens à une communauté du vivant, à une matrice vivante. Et en regardant les arbres, je retrouve cela à chaque fois.
Je suis
Oui, il faut gagner son pain. On écoutait Gaëtan Nonchalant.
Les aventuriers sur France Inter.
Jacques Tassin est un scientifique qui est aussi poète. Il plaide pour une écologie différente, une écologie du désir. Il dit que nous ne savons plus regarder le monde qui nous entoure. Il dit aussi que s'inspirer des arbres pourrait nous aider à avoir une vie meilleure, car nous ne sommes plus enracinés.
Le végétal se déploie vers de l'extérieur. L'animal, dès les premiers jours finalement de son développement embryonnaire, il se replie sur lui-même. Il est délimité, il est fermé. Il est fermé aussi dans le temps. L'arbre ne l'est pas du tout. Donc ce sont des manières d'être qui n'ont rien à voir. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est d'aller scruter chez l'autre ce qui ne nous ressemble pas. Regardez ce qui pourrait nous ressembler, mais alors là on est sûr de se tromper d'ailleurs, hein, si on regarde les arbres, c'est non seulement se tromper, mais c'est aussi se regarder dans un miroir. Là. Donc autant regarder directement un miroir. Et moi j'aime beaucoup ce qu'a imaginé Gilles Clément notamment. Il a imaginé, le paysagiste Gilles oui. Clément, une mise en scène florale où il a mis sur des cheminements des miroirs qui finalement font obstacle. Lorsqu'on est sur ces miroirs, eh ben on est obligé de faire demi-tour. Et je trouve que c'est très intéressant parce qu'il est allé jusqu'au bout de cette idée selon laquelle, quand on est dans l'anthropomorphisme, on est face à un miroir et on ne regarde que soi-même. On perd son temps en réalité. Regardons dans l'arbre ce qui justement ne nous ressemble pas.
Regardons les arbres, nous sortons d'ailleurs de la forêt et on peut s'inspirer des arbres et de la vie des arbres pour rendre sa propre vie meilleure, c'est ce que vous dites.
On peut en tout cas observer, même si nous ne ressemblerons jamais à des arbres, on peut faire tous les efforts possibles, nous n'y parviendrons pas, mais on peut se souvenir cette manière qui a formidablement réussi à l'ensemble du végétal, puisque le végétal a conquis l'ensemble de la Terre, et le végétal est omniprésent dans une forêt, 99,8% de la masse vivante, c'est de l'arbre. Donc on peut se souvenir de cela et se dire finalement, quelle est la force de l'arbre ? Cette capacité d'être en proximité, en immédiateté avec le reste du monde, tel que le pratiquent les arbres, on sait aussi que c'est ce qui peut nous procurer du bonheur. Donc faisons-le, ça existe chez les plantes, chez le vivant.
Ce qui a été prouvé en tout cas, c'est que contempler des arbres fait baisser son taux de stress.
Oui, alors ça, on le savait depuis très longtemps, puisque dans les hôpitaux, on plantait des arbres, ou alors on envoyait les malades à la campagne, au contact du vivant. Et ça a été étudié du côté de l'Asie, notamment du Japon, où des expérimentations ont été faites à partir de volontaires qui ont passé une journée en forêt. Et lorsqu'ils sont rentrés, on a mesuré différents indicateurs, la pression cardiaque, le rythme cardiaque, le taux de cortisol, qui est une hormone qui reflète le niveau de stress. Et tout cela s'apaise au terme d'une reprise de contact avec la forêt. Et ce que l'on a observé également, de manière totalement inattendue, c'est que même notre système immunitaire est renforcé avec les arbres. Et on sait pourquoi. C'est en inhalant des substances volatiles qui sont produites par les arbres, qui servent à se défendre d'insectes prédateurs, et justement à préserver leur propre immunité. Lorsqu'elles sont absorbées, ces substances, par d'autres organismes, tels que les êtres humains, leur propre immunité est renforcée. Si c'est pas merveilleux.
Il faut donc aller marcher en forêt, voir enlacer les arbres. L'arbothérapie est très à la mode. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors on fait ce qu'on veut et puis si, oui. et si ça déstresse d'enlacer des arbres, enlaçons des arbres. N'oublions pas que nous sommes des primates. Les primates, ce sont des êtres vivants particuliers qui ont évolué au contact étroit des arbres. Depuis que nous sommes des primates, c'est-à-dire il y a 65 millions d'années, nous sommes restés des primates et notre corps a été totalement façonné par les arbres. C'est au contact des branches que nos mains sont devenues ce qu'elles sont. Nous avons été sculptés. Vraiment, je ne suis pas dans la licence poétique en disant cela. C'est la réalité. Nous descendons des arbres, en quelque sorte. Donc, évidemment, lorsqu'on va retrouver les arbres, on retrouve une familiarité extraordinaire.
Et quand vous dites qu'on a été façonné, on s'est levé pour regarder au-dessus des plantes, c'est ça ce que vous voulez dire ?
Non, ce que je veux dire, c'est que notre corps a été façonné au contact du quotidien de l'arbre. Notre appareil digestif est fait pour digérer ce qu'on trouve dans l'arbre, avant tout autre chose. Hein. D'ailleurs, quand on rappelle qu'il faut manger 5 fruits ou légumes par jour, c'est exactement cela. Ce sont ce qu'on digère le mieux, parce que l'évolution nous a emmenés vers cela.
Vous parlez du monde vivant, nous faisons partie de ce monde-là, nous les hommes.
Alors, non seulement nous faisons partie de ce monde-là, mais nous sommes en continuité de ce monde-là. Et nous ne trouvons de plénitude existentielle que si nous éprouvons cette continuité. Tout à l'heure, vous m'interrogez sur ce que je ressentais lorsque j'étais en présence d'arbres. Mais c'est cela que je ressens, c'est cette continuité. Alors, elle n'est pas immédiate, je l'admets, entre un arbre et l'animal que je suis. Mais elle est là, c'est du vivant. Et cette matrice vivante est cette matrice dont nous sortons. Nous sortons évidemment du ventre de notre maman, mais nous sortons aussi de cette matrice vivante qui était notamment la forêt dont l'homme a émergé au terme d'une grossesse de 65 millions d'années, si je peux dire.
Écoutez ce que disait le professeur Achille Urbain. Il a été directeur du Muséum National d'Histoire Naturelle jusqu'en 1949 et il parlait en 1951 de la protection de la nature.
Il ne saurait échapper à personne que les besoins réels ou artificiels de l'homme l'auront trop souvent amené à utiliser les ressources du monde vivant sans aucun ménagement et surtout sans discernement. Il importe donc aujourd'hui, plus que jamais, qu'il prenne conscience de la valeur de ce qui l'entoure, la protection du sol, des eaux, de la flore, de la faune et d'éléments naturels présente donc une importance considérable, capitale du point de vue économique, social, éducatif et culturel. L'homme ne s'est pas contenté de pratiquer d'irréparables ravages dans le règne animal. Les végétaux comptent aussi au nombre de ses victimes. Il est impossible de signaler par pays les plantes et les arbres qui ont disparu sous l'influence des feux de brousse et de la déforestation. La couverture végétale naturelle est indispensable à la protection du sol. Si elle disparaît, on assiste rapidement au ruissellement de l'eau des pluies qui devient boueuse et provoque une érosion plus ou moins importante avec toutes ses conséquences.
C'était il y a 70 ans et ce discours est très actuel en fait.
Alors il est resté actuel dans les faits, après dans l'approche il a évolué. C'est-à-dire que ce qu'on entend là dans ce discours c'est la nature malgré l'homme. Dans les 10 dernières années, enfin jusqu'à il y a une dizaine d'années je dirais, on est passé à la nature au service de l'homme, avec ce qu'on appelle les services écosystémiques. Depuis, on a encore changé où on est dans le paradigme de la nature avec l'homme, ou l'homme avec la nature. Si on se reconnecte à ce vivant, si on réengage notre corps, notre dimension sensible au contact du vivant, si on apprend à mesurer combien cela nous fait du bien, alors les choses peuvent être appelées à changer.
Voilà pourquoi vous dites, il faut réhabiter la Terre.
Absolument. Réapprenons, et c'est ce que l'on voit sous nos yeux actuellement, réapprenons à conjuguer le sensible et la raison, et les deux se marient merveilleusement bien, de la meilleure façon possible. Et c'est ce qui rend optimiste, finalement, lorsqu'on voit que ce mariage est en train d'opérer en ce moment.
No te va mi aruelo, mi arue mi aratonase. Lo lo ya ova mi duelo, no viva mi ailo. Va no viva rotone ase, e alolo no vine, no viva roto agbe ya wo. Non viva, roto agbe yo wo, non viva. Mia ilo, agbe le tekwa wo, mia ila, mia ilo vivida. Na mesia me. Dum, 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 dum. Va, no te va mi se no te va mi aduelo mi aduwe mi adoto na se no lo ya uva mi duelo no viva mi aduelo. Viva do to agwe yowo no viva do to agwe yowo no viva mia ilo agwele tepo wo mia ila mia ilo vivida na mesia me no vado no ne ka no no vado no ne ka no 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 vivide mia mia no du sesede mia du welo ne mia ku.
C'est Djoubaka qui réalise la programmation musicale des Saventuriers et on lui dit merci pour ce très beau titre d'Angélique Kidjo, Lon Lon. Jacques Tassin, vous avez eu des expériences sensorielles avec les arbres ?
Oui. Bah oui, quand j'étais enfant, je grimpais dans les arbres, je n'hésitais pas à les toucher. Maintenant, bon, devenu adulte, malheureusement, vraiment malheureusement, je suis moins tenté de le faire. Puis bon, maintenant je me méfie quand je monte dans un arbre. Mais j'ai eu ces expériences sensorielles qui ont forgé ma propre sensibilité envers les arbres et je reste marqué par cela. Et il faut emmener les enfants, il faut les brancher, nos enfants.
Une
Gynécologie du sensible de Jacques Tassin est paru aux éditions d'Il Jacob. Merci à Stéphanie Texier qui a réalisé cette émission avec Emma Ferré et Fanny Leroy. Merci à Alexandre Chenet à la technique. Une émission que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de France Inter. Je vous rappelle que toutes les émissions de cette série estivale sont à votre disposition en podcast. Et sur la page des Saventuriers, vous trouverez entre autres des liens qui vous permettront d'aller plus loin. Samedi prochain, nous parlerons du biomimétisme. Au cours de 3,8 milliards d'années d'évolution, la nature a trouvé des solutions à de nombreux problèmes et nous pouvons nous en inspirer. Très bonne semaine à tous à l'écoute de France Inter.